Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au village d'Aglassi, situé dans la région de l'Est, à 250 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun. C'est dans ce village que nous allons prendre la température de la souveraineté alimentaire grâce à l'agriculture familiale. Tout au long de ce programme, nous irons à la rencontre de Jacques Mokok, qui est un facilitateur de développement. Nous nous entretiendrons avec une famille qui nous parlera de l'héritage d'agriculture familiale qui se transmet, vous allez le voir, des parents aux enfants. Merci d'écouter ce programme qui bénéficie de l'appui de l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires, la MAC. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, la suite du programme. Jacques Mokok, vous êtes un facilitateur de développement. D'abord, est-ce que l'agriculture familiale est pratiquée dans ce village?
L'agriculture familiale, il faut l'avouer, est l'activité, je dirais, par défaut des populations. Elles n'ont pas autre chose à faire depuis la grande crise qu'ont connu les cultures pérennes. Donc, il y a de cela plus de 2-3 décennies déjà, l'agriculture familiale a montré tout son potentiel et a permis aux familles de pouvoir survivre, pour dire simplement qu'elle est pratiquée et elle permet aux populations de joindre les deux bouts.
À Diaglassi, on parle de souveraineté alimentaire.
Bien évidemment, vous n'avez qu'à voir la stature des populations. Certes, nous sommes en zone rurale, mais faites un tour de la communauté. Il est difficile que vous voyez des personnes physiquement, je dirais, moribondes. Ceci témoigne à suffisance de ce que, même si les diététiciens vous diront que l'alimentation n'est pas équilibré, mais nous sommes quantitativement soulagés. Du moins, les populations ont des aliments en quantité. Bon, maintenant, les rapports de qualité, cela peut être relativisé, mais il n'y a pas de crise alimentaire en tant que telle. Les populations parviennent à avoir plus que le minimum qui est demandé pour un organisme humain.
Alors, tout ceci grâce à la petite agriculture, grâce à l'agriculture familiale.
Oui. Vous avez juste derrière les cases ici des petits champs de macabo, de manioc, en dehors de ces féculents, vous avez des légumes. Et en temps de pluie comme maintenant, on n'a pas trop besoin d'aller à un autre champ familial qui est beaucoup plus grand, un peu plus loin. Il y a tout autour des cases, ce qui permet de se ravitailler en cas d'urgence. Bon, disons, comme je le disais dès le début, l'agriculture familiale est amplement, largement pratiquée ici. C'est la seule forme d'agriculture même qui est encore pratiquée ici, malgré la volonté de la nouvelle vague, hein, je veux dire des jeunes, à aller vers une agriculture un peu plus moderne, un peu plus intensive.
Et quelles sont les difficultés que ces populations de Diaglassi rencontrent, par exemple?
Les difficultés restent nombreuses. Il y a déjà un problème d'organisation. C'est pas tout le monde qui essaye de travailler en groupe. Bon, disons, les groupes même qui existent sont essentiellement sur une base familiale. Et certains se contentent simplement de la main-d'œuvre du ménage. Je veux dire, ici, hommes, femmes et enfants vivant dans un même ménage se mettent ensemble pour faire un champ commun. Et par abus, certains ont attribué le grand nombre d'enfants que les familles ont au besoin de main-d'œuvre. Donc, le nombre d'enfants permet de satisfaire les besoins en main-d'œuvre. Mais sinon, parmi les problèmes, je disais, il y a ce problème de main-d'œuvre. Il y a également le problème d'intrants, de manière générale. Les intrants ici, nous entendrons les semences de qualité, nous entendrons aussi l'outillage. Bon, il reste vrai que l'agriculture en zone forestière est particulièrement difficile à cause de l'invasion des mauvaises herbes et aussi ces derniers temps, il y a les changements climatiques qui ne permettent pas qu'on maîtrise les saisons comme il y a de cela quelques années encore. Donc, il y a des moments où nous savons que c'est la campagne agricole qui débute au mois de mars. Et dès que les pluies sont arrivées, soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard, les gens se mettent tout de suite à cultiver, à mettre les plants en terre. Mais sitôt que si les pluies s'arrêtent beaucoup plus tôt, vous comprendrez que les récoltes ne suivront pas. Donc c'est autant de choses. Pour les questions d'intrants, bon, les populations se battent comme elles peuvent. Il y a quand même des semences améliorées qui, de temps en temps, sont soit achetées, soit distribuées aux populations par certaines ONG et certains services de l'État. Mais pour le petit outillage, il reste tel qu'il a toujours été. C'est une machette, c'est une houe, c'est des limes, râteaux. On reste à cela. Bon, maintenant, pour les changements climatiques, le besoin reste aujourd'hui d'avoir quand même un minimum d'informations, que les populations soient accompagnées dans la lecture du climat pour essayer de réduire l'effet de ces changements inopportuns sur le calendrier agricole.
Jacques Mekong, je rappelle que vous êtes facilitateur de développement. Nous vous disons merci. Cette émission se poursuit. Nous sommes dans la famille Abosolo, où nous avons le chef de famille qui est une dame et un neveu, ainsi que un de ses enfants. Donc avec eux, nous allons parler de la souveraineté alimentaire et notamment des difficultés rencontrées par la famille dans la souveraineté alimentaire et par l'agriculture, la façon d'envisager l'avenir. Et puis nous nous intéresserons à la fin si l'héritage de l'agriculture familiale se transmet aux enfants et en plus si ces derniers veulent prendre la relève. Nous commençons par la maman, elle s'appelle Thérèse. Bonjour Thérèse.
Bonjour monsieur.
Nous sommes avec le neveu, lui s'appelle Achille. Bonjour Achille.
Bonjour monsieur.
Alors nous sommes avec le fils, lui c'est Ludovic. Ludovic, bonjour.
Bonjour monsieur.
Maman Thérèse, hein, merci de répondre à nos questions. Présentez-nous vos champs. Vous avez quoi concrètement? Ce champ est composé de quoi?
Ce champ est composé de maïs, d'arachide, un peu de manioc, un peu de macabo. Et puis il y a quelques têtes de plantain également.
Vous avez quelle superficie?
Je dirais 1 hectare. 1 hectare composé de tout ce que je vous ai cité tout à l'heure.
Alors, nous voyons que vous n'êtes pas venu seul à ce champ, vous êtes venu avec... C'était membre de vos familles. Alors, le champ n'est pas loin de la maison?
Le champ, il est quand même un peu loin de la maison. Mais c'est justement parce que nous avons cherché une superficie un peu plus vaste. Parce que dans les alentours de la maison, on ne pouvait pas avoir cette superficie-là. Donc, c'est un peu plus éloigné de la maison. Et avec une superficie pareille, je ne peux pas me battre seul. Il faut l'aide des enfants. Voilà pourquoi tout le temps que je viens au champ et lorsqu'ils ne vont pas à l'école, ils m'accompagnent.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce champ?
Il y a d'abord le moyen de locomotion, la longueur, la distance. Le champ est très très éloigné, il faut marcher des kilomètres à pied. Et en plus, les engrais, c'est d'une façon très très archaïque. Si on doit faire 1 hectare de champ à travailler à la main, vraiment ce n'est pas du tout facile. Donc les intrants, on n'en a pas. On se débrouille avec la houe, les dabas et les machettes. On n'a pas le matériel adéquat. C'est ce qui fatigue même en plus.
Le neveu Achille, alors quelles sont les difficultés que toi tu rencontres dans ce champ? La mère a dit tout à l'heure que vous venez de temps en temps quand vous n'êtes pas à l'école. Alors quelles sont les difficultés que vous rencontrez?
Oui, les difficultés, vous voyez, notre champ, on a beaucoup d'insectes. Et comme on parlait tout à l'heure de la production est un peu très difficile. Mais au moment de la récolte, transporter nos produits pour la ville, c'est parfois très difficile.
Je vous vois justement, Ludovic, vous avez déjà parqué 2 quoi régime de planteurs pour la ville. Alors, vous les transportez comment tous ces produits?
Bon, ça dépend aussi du moyen de locomotion. Deux fois, par voiture ou par moto. Deux fois, on les transporte même sur la tête. On fait des échanges par rapport aux distances parcourues. Jusqu'à arriver à la maison. On se déboit les moyens du bord.
Ludovic, qu'est-ce que tu penses que ce champ t'aide par exemple à poursuivre tes études?
Oui, je le pense, puisque c'est à travers cet argent des produits dont la mère se débrouille à vendre au marché, au quartier, qui m'envoie à l'école et me donne cet argent pour payer mon transport pour aller à l'école et pouvoir manger aussi à l'école.
Alors, Madame Thérèse, je reviens à vous. Vous avez parlé tout à l'heure des difficultés. Comment vous voyez l'avenir dans vos champs? dans les prochaines années, les prochains mois? Vous voyez ce champ comment?
J'aimerais vraiment étendre, aller même à 3, 4, pourquoi pas 5 hectares. Mais si je n'ai pas l'aide qui me vient par exemple de l'État, je ne peux pas. Même j'ai des ambitions d'agrandir ce champ parce que c'est la seule, la seule richesse que je pourrais laisser à ma progéniture. Donc, si l'État voudrait bien m'aider en m'octroyant les moyens nécessaires, c'est-à-dire les appareils adéquats pour la production de mes récoltes.
Ah, alors, les jeunes, vous avez suivi tout à l'heure, Maman Thérèse a été claire, hein, elle parle de l'avenir. Hein, vous pouvez donc vous laisser tout cela. Mais est-ce que vous êtes prêt à garder tout cet héritage?
Oui, c'est. Nous, on pensons la même avis que la mère, comme elle a dit que tout à l'heure, elle voulait faire 5, 3, 4 ou 5, 6 hectares. Nous voulons bien cela. Mais ça dépend aussi des moyens, comme elle parlait tout à l'heure. Il faut que nous fréquentions un peu pour avoir un peu de travail. Cet argent peut nous permettre d'agrandir des structures agricoles.
Alors moi, je voudrais signaler à Achille que toi, je l'ai rappelé, que toi, tu es le neveu. Et est-ce qu'avant d'arriver dans cette famille, dans cette maison de Maman Thérèse, tu faisais à deux champs?
Oui, puisque moi, j'ai resté au village déjà avec la grand-mère. Donc en arrivant ici, moi, j'étais déjà prêt pour ce genre de travaux.
Alors, pour Ludovic, qui est l'enfant de Maman Thérèse, est-ce que demain tu es prêt à poursuivre avec les champs, avec ce champ de la maman?
Oui, je pense bien. Après mes études, bon, je cherche du travail. Et avec cet argent que j'aurais pu avoir grâce à mes études, j'essaierai d'agrandir le champ de la mère, voire augmenter les produits cultivés et les revendre pour créer un autre champ non loin de cela.
Est-ce que vous allez conseiller aux autres jeunes comme vous d'aller vers mon champ?
Oui, je peux le conseiller, puis c'est bien. S'il n'y a pas qu'à l'école qu'on gagne sa vie. Même en faisant les champs, on peut gagner notre vie. On peut le constater au marché, il y a les mecs qui le font chaque jour, elles vivent bien. Elles n'en vivent pas la femme qui attend de son mari ou qui travaille elle-même dans des grands bureaux et consorts. Et je pense qu'on peut s'en sortir en faisant les champs.
Alors, Maman Thérèse, on va vous laisser. Hein. Je sais que là, vous êtes fatigué. Après une journée de là-bas, vous êtes pour évacuer donc tout le produit. On va vous dire merci. Moi, je voudrais savoir si, en dehors donc de ces enfants, si vous arrivez par exemple au quartier de discuter avec les voisines sur l'importance du champ.
Oui, bien sûr. Comme l'enfant l'a dit tout à l'heure, certains pensent que le champ est réservé seulement à celle qui ne fait rien, à celle qui a raté dans sa vie. Mais là, moi, je dis souvent à mes voisines que ce n'est pas vrai. Le champ, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont raté leur vie. Au contraire, le champ, c'est même la cheville ouvrière. C'est l'économie même de notre pays. Parce que sans champ, je ne sais pas si les gens arriveraient à manger même dans leur maison.
Nous vous avons d'ailleurs surpris avec même les petits-enfants. Hein? Ils viennent au champ, hein? Les petits-enfants viennent au champ. Déjà, c'est ça, vous leur permettez, parce que je sais, quand vous venez au champ, vous faites une journée, vous mangez sur place, vous buvez de l'eau, et puis, donc, cette ambiance, c'est bon. Merci, Maman Thérèse, merci, Ludovic, merci, Achille. Cette émission s'achève. Vous avez pu le noter, Diaglassi est un village peuplé aussi bien de Baka que de Bantou. Mais ici, la souveraineté alimentaire est une réalité grâce à l'agriculture familiale. Nous remercions l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires de nous avoir accompagnés durant ce programme.